On entend de plus en plus parler de neuropsychologue dans le domaine de la santé mentale. Mais sait-on réellement quel est son rôle? Eh bien, le hasard faisant bien les choses, nous, trois étudiants au doctorat en psychologie à l'Université Laval, avons rencontré Luc Vigneault, une personne qui compose avec la schizophrénie, pour justement démystifier le rôle du neuropsy. La formule proposée est celle du témoignage de Luc, entremêlée de nos explications. Bonne écoute!
Ah bonjour, moi je m'appelle Luc Vigneault. Je suis une personne qui a eu un diagnostic de schizophrénie, de dépression sévère. J'ai également vécu, ou devrais dire souffert de toxicomanie dans ma vie. Donc cette année j'ai eu 62 ans. Plusieurs années que je vis avec ça. Je me considère rétabli. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de soins pour autant. J'ai encore un suivi avec une équipe extraordinaire. Là. Mais disons que ça fait plusieurs années que j'ai pas été hospitalisé.
Quand on pense au rétablissement, la première définition qui peut nous venir en tête, là, c'est peut-être celle qui est le plus utilisée dans le domaine médical, là, qui est, t'sais, une espèce de guérison ou une absence complète de symptômes. Mais c'est assez différent lorsqu'on parle, là, de troubles de santé mentale ou même de difficultés cognitives. Et on va parler de rétablissement, même s'il y a des symptômes, là, qui sont présents, malgré les traitements que la personne va recevoir. Puis qu'est-ce qu'on entend par rétablissement? Ben, c'est la possibilité, là, pour la personne de vivre une vie satisfaisante, là, en fonction de ses propres critères, malgré, là, les symptômes qui vont persister. On considère que le rétablissement, c'est un processus, pas vraiment une destination. Donc, c'est un processus, là, qui est tout le temps en changement. Donc, la définition du rétablissement de la personne va varier, là, en fonction autant de ses critères personnels, mais aussi elle va varier dans le temps. Donc, c'est un processus qui va être unique à chaque personne, puis qui va vraiment, c'est au-delà du traitement des symptômes, là, c'est vraiment quelque chose qui est dans le ressenti de la personne, où est-ce qu'elle est, à quel point elle peut se sentir épanouie. Puis, comment on peut favoriser, là, ce processus de rétablissement-là chez nos patients ou chez les personnes qu'on connaît qui ont des difficultés cognitives ou de santé mentale? Ben, une des premières choses qu'on peut faire, c'est de susciter l'espoir chez la personne. Donc, de renforcer l'idée que c'est possible d'avoir une vie satisfaisante malgré les symptômes qui sont présents, qui sont persistants. Donc, le sentiment d'espoir peut également émerger, là, de la personne elle-même, puis peut être seulement, là, renforcé par les personnes qui entourent la personne, que ce soit les professionnels, les proches ou un parent aidant comme Luc l'est. Puis, une autre manière de favoriser le processus de rétablissement, c'est de définir la personne autrement que seulement par sa maladie ou ses difficultés qui sont persistantes. Donc, tu sais, éviter de dire que cette personne-là est malade ou de seulement s'identifier au fait que, ah, j'ai pas une bonne mémoire, moi, tu sais, de se concentrer sur les forces de la personne, c'est une manière de favoriser, là, le rétablissement de la personne.
Suite à ça, c'est là que je suis allé chercher d'autres services de dons professionnels. Donc voilà, aujourd'hui, je me consacre à aider mes pairs, également au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement. On appelle ça patient-partenaire aujourd'hui. Et particulièrement, la neuropsy, ça m'intéresse énormément parce que j'ai eu grandement besoin de la neuropsy dans ma vie. Donc, puis je trouve que c'est on n'en parle pas assez. Voilà.
Eh bien, justement, parlons-en. On peut définir le ou la neuropsy comme un spécialiste des relations entre le cerveau et le comportement par le biais des fonctions cognitives. Donc, par exemple, la mémoire, le langage, la concentration, la vitesse de traitement de l'information ou encore les fonctions exécutives comme la planification. Si on a tous et toutes des profils cognitifs différents dans la vie, il n'est pas rare qu'on va retrouver des déficits cognitifs lorsqu'on présente un trouble de santé mentale, comme par exemple la schizophrénie. Ce qu'on entend par des déficits cognitifs, c'est simplement des niveaux sous-optimaux de la cognition. Donc, par exemple, on va avoir certaines lacunes au niveau de la mémoire. Aussi, dépendamment du trouble de santé mentale qu'on va présenter, les déficits cognitifs vont s'installer ou s'aggraver à travers différents stades du trouble. Par exemple, dans la grande famille des troubles psychotiques, il n'est pas rare qu'on va observer les déficits cognitifs comme étant les tout premiers symptômes. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la cognition peut être influencée par plusieurs facteurs différents. Par exemple, nos propres émotions et réactions physiologiques peuvent avoir un effet sur le bon fonctionnement de notre cognition. Dans le cas d'un trouble mental, Les facteurs qui gravitent autour de nous, qui sont capables d'interférer avec nos habiletés cognitives, peuvent rapidement s'additionner et ainsi rendre la tâche du neuropsy plus complexe pour être capable de dresser un profil neuropsychologique juste et spécifique. Un exemple de facteur qui pourrait avoir un effet néfaste sur la cognition est celui des effets indésirables d'une médication. Par exemple, je pense à celui d'une personne qui développe un trouble neurologique secondaire à la prise d'un antipsychotique qui pourrait par la suite expérimenter un ralentissement psychomoteur, donc un ralentissement au niveau de la pensée, mais aussi de la motricité, donc du mouvement de la personne.
Ben d'abord, mes difficultés, je pense que la pire difficulté que j'ai eue puis qui persiste encore, j'ai souvent pensé que je n'étais pas intelligent. Puis quand j'ai découvert que c'était un problème cognitif, puis que ça se soigne, mon Dieu, j'étais donc content. Hein? Pas de problème de mémoire, pas de problème de concentration, problème de mémoire, de concentration, problème à interagir dans la société, problème à reconnaître les signes non-verbaux que les gens émettent, être capable de reconnaître les jokes, les faces au second degré, c'est toutes des choses que je n'avais pas et que je pensais que je n'étais pas intelligent. Et finalement, on m'a appris que c'était des problèmes cognitifs et que ça se traite très bien. Qu'on peut s'en sortir. C'est ça, moi, qui m'a marqué. Puis je vous dirais, comme j'ai eu 62 ans cette année, j'ai ça depuis l'âge de 17 ans, et on ne m'a jamais, mais jamais parlé de mes problèmes cognitifs en psychiatrie. J'ai été hospitalisé plusieurs fois, des longs mois.
Les neuropsychologues y œuvrent de plus en plus en psychiatrie pour venir évaluer puis aussi offrir des traitements non pharmacologiques pour les difficultés cognitives, comme celles rapportées là par Luc dans son témoignage. Parmi les approches non pharmacologiques, on peut retrouver entre autres une intervention qu'on va nommer la remédiation cognitive. Dans le fond, chaque programme de remédiation cognitive va venir cibler une ou plusieurs fonctions cognitives, comme par exemple l'inhibition, qu'on peut un peu considérer comme le frein dans notre cerveau. La vitesse de traitement, qui est un peu comme l'accélérateur, ou même la flexibilité mentale, qu'on peut percevoir comme un levier de vitesse. Donc, il y a certaines études qui montrent justement des effets significatifs de la remédiation cognitive sur l'amélioration du fonctionnement cognitif en général. Plus précisément, la remédiation cognitive est définie comme une forme d'entraînement comportemental qui vise à améliorer à la fois le fonctionnement cognitif et social, mais qui a surtout un objectif de durabilité puis de généralisation. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on peut venir adapter notre intervention aux besoins spécifiques des patients en venant les placer comme des acteurs de leur propre rétablissement. Il est possible ainsi là, de concevoir la remédiation cognitive comme un catalyseur du rétablissement, puis un cheminement là, qui est propre à chacun des individus.
Je me souviens, je travaillais au Père Aidant. Il y a même un psychiatre qui me dit, hey, Luc, il y a plusieurs patients, j'appelle ça syndrome du coco vide. Ils comprennent rien quand je lui parle. C'est quoi ça? Ben ça, c'est un docteur, c'est des problèmes cognitifs. Ils n'ont pas de coco vide pantoute. C'est des gens très intelligents qui ont besoin de soins particuliers que la psychiatrie offre pas. C'est ça qu'il faut retenir. Si je fais de la recherche aujourd'hui, puis on sait très bien de juste voir un psychiatre, c'est des méthodes anciennes. Ils ont pas les connaissances nécessaires au niveau de la psychologie, au niveau des problèmes sociaux, etc. Tu sais, on dit biopsychosocial, on l'entend à nos yeux. Mais maintenant, il faut le mettre en application. Donc, le bio, il est bien équipé. Ils font de belles jobs, les psychiatres, ça c'est important de le dire. La pharmaco est là, puis maintenant, ils font de belles jobs. Et il manque malheureusement de neuropsy, puis je vais rajouter de travailleurs sociaux, de père aidant.
Comme le souligne Luc, le neuropsy joue un rôle clé dans le rétablissement optimal d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. Le réseau de professionnels de la santé dont une personne a besoin lorsqu'elle vit un trouble de santé mentale peut être représenté par un casse-tête où chaque morceau est une expertise différente. Aujourd'hui, on vous aura présenté l'expertise neuropsychologique.